4, verset 26. Et nous ferons la lecture de plusieurs versets. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne soit pas même nommé parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le, bien aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'était la parole de Dieu par la bouche de l'apôtre Paul. Et ça fait plusieurs dimanches que nous parlons en fait des sentiments qui peuvent nous paralyser dans la vie chrétienne, qui peuvent nous affaiblir. On a parlé des sentiments d'infériorité. Un jour avec le pasteur Vincent, la semaine dernière, nous avons parlé des sentiments de doute. Et ce matin, je retiens encore un sentiment, celui de la colère. Alors peut-être on finira par appeler cette série « La vie sentimentale du chrétien », mais on va essayer de toucher à plusieurs sentiments, parce que c'est aussi des choses que Dieu veut, Dieu veut utiliser, Dieu veut régner sur nos sentiments qui plaisent à lui. Et donc ce matin, c'est la colère qui est le sujet. Et trois fois dans ce passage, Paul parle de la colère. En verset 26, il y a ce verset peu connu. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Puis en verset 31 encore, il va dire toute cette liste, mais il dit que toute colère disparaisse du milieu de vous. Et puis en chapitre 5, verset 6, il rappelle qu'un jour, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc voilà trois références à la colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que toute colère disparaisse du milieu de vous, et puis la colère de Dieu vient. Alors pour que tous ces versets soient vrais, pour que tous ces versets se tiennent dans le même contexte, je crois qu'il va falloir approfondir notre compréhension de ce sentiment. C'est vrai qu'en France, on pense bien connaître ce sentiment, on s'en sert pas mal pour avancer les choses, comme on dit, mais c'est en effet un sentiment qui peut faire énormément de dégâts dans les vies, non seulement pour celui qui manifeste la colère, mais aussi pour son entourage. Il y a Victor Hugo dans son livre 93, il a un chapitre très intéressant. C'est même un chapitre qui est proposé au bac régulièrement, je crois. Mais il s'agit d'un canon qui se détache sur un navire. C'est un navire de guerre, donc avec des canons. Et un canon se détache. Et sur ce bateau qui est ballotté sur une mer incertaine, le canon, il se promène partout. Et dans sa description, il fait une description en long et en large de ce canon terrible, qui devient presque un monstre. Et il dit, il faut imaginer une bille sur une planche qui bouge dans tous les sens. Mais sauf que c'est pas une bille, c'est une masse en fer et qui détruit tout comme ça. Et c'est, la description est très forte, mais effectivement, la colère peut être ainsi. Ce sentiment peut devenir un monstre incontrôlable qui se promène partout, qui détruit tout. Elle peut détruire notre quotidien, elle peut détruire notre famille, elle peut même détruire notre corps, tellement le sentiment est fort. Alors pour un peu faire ce que Paul nous dit de faire ici et comprendre ce sentiment, nous allons voir tout d'abord la justesse de la colère, ensuite le dérapage de la colère et enfin le domptage de la colère. Peut-être ça peut nous aider à gérer ce sentiment, à la dompter. Tout d'abord, voyons la justesse de la colère. Est-ce que la colère est une mauvaise chose en soi? Et la réponse peut-être surprenante de ce passage, c'est la réponse est non. Elle n'est pas une mauvaise chose en soi. Vous savez, dans cette partie de sa lettre, c'est écrit à cette église à Éphèse, Paul, il veut aider les chrétiens à vivre leur nouvelle vie en Christ. Il veut les aider à même changer de comportement par rapport à ce qu'on voit dans le monde inconverti, le monde païen. Et il leur rappelle que maintenant qu'ils sont chrétiens, il y a une nouvelle manière de vivre, il y a un nouvel homme à découvrir et à mettre en pratique. Ça, c'est un peu le chapitre 4. Et donc, il va les aider, il va prendre plusieurs pratiques qu'on peut peut-être trouver dans le monde qui sont destructeurs. Et il va dire dans l'église, pour avoir l'unité et pour bien vivre sa vie de chrétien et sa vie d'église, voilà, il faut se débarrasser de ces choses. Donc, par exemple, il va dire, renoncer aux mensonges. Plus de mensonges parmi les chrétiens. Effectivement, mentir, ce n'est jamais bien. Puis il va dire, voler, renoncer au vol, qu'on ne dérobe plus. Effectivement, voler, ce n'est jamais bien. Et puis il va dire, renoncer aux paroles mauvaises. Effectivement, les paroles mauvaises, c'est jamais bien. Mais quand il parle de la colère, il y a une légère différence, il y a une nuance, parce qu'il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et même littéralement, le verset dit, mettez-vous en colère et ne péchez pas. Alors là, comment on va faire ça? Qu'est-ce que la colère, en fait? La colère, c'est ce sentiment, cette vive sentiment, cette vive émotion d'une irritation. Il y a des synonymes, s'irriter, se fâcher. Et c'est cette passion négative, souvent associée de manière négative, une passion négative contre quelque chose que vous avez vécu, contre une injustice, contre un affront, contre un tort. Et voilà, c'est cette émotion, cette irritation contre une injustice. Mais quelqu'un m'a beaucoup aidé en me montrant que finalement la colère, c'est une preuve d'amour. La colère, c'est une preuve d'amour. Si jamais vous décidez à aimer quelque chose ou quelqu'un, vous vous ouvrez à la possibilité de ce sentiment, la possibilité de la colère. On pourrait dire que la colère, c'est un sentiment compagnon de l'amour. Parce que, vous voyez, si vraiment vous aimez quelque chose, si vous aimez quelqu'un, et que cette chose est menacée, cette chose est en péril, ou cette chose est traitée de manière injuste, eh bien là, forcément, si vous l'aimez, il y aura un sentiment d'irritation, un sentiment d'indignation qui pousse à l'action. Et plus vous aimez la chose, plus vous tenez à la chose chère, plus les sentiments de colère vont surgir lorsque cette chose est menacée, lorsque cette chose est en péril. Et ça nous aide à comprendre la colère. Parce que quand vous regardez la Bible, la quasi-totalité des références à la colère dans la Bible, c'est présenté plutôt comme une bonne chose, puisqu'on parle de la colère de Dieu. Dieu, il est parfait, Dieu, il n'y a que perfection en lui. On parle pourtant beaucoup de la colère de Dieu, on le retrouve non seulement dans l'Ancien Testament, mais tout autant dans le Nouveau Testament. Ici, on parle de la colère de Dieu qui vient sur les fils de la rébellion. Mais cette colère-là, si Dieu manifeste la colère, c'est aussi parce qu'il est un Dieu d'amour. La colère est une déclaration d'amour. La colère est une preuve d'amour parce que Dieu, qu'est-ce qu'il aime? Eh bien, Dieu, il aime la vérité. Dieu, il aime sa créature, sa création. Dieu, il aime son honneur, il aime sa gloire, il aime sa sainteté. Et donc, quand ces choses, quand on vient, quand le malin, quand le péché veut détruire ces choses, forcément, il y a la colère. Quand on veut la détruire, quand on fait du mal à ça, à cause de son amour, naturellement, il manifeste sa colère. Et cela peut même expliquer plusieurs réactions de Jésus dans l'Évangile. C'est vrai que quand on lit les Évangiles, on trouve Jésus rempli de compassion, rempli d'amour autour de lui. Mais vous connaissez les plusieurs fois, je suppose, où on a trouvé en Christ ce sentiment d'indignation, un sentiment de colère. On connaît la fois où Jésus a montré cette une vive émotion lorsqu'il était dans le temple, lorsqu'il a chassé tous les vendeurs du temple, il a renversé les tables, il a pris un fouet, il était visiblement en colère. Pourquoi? Parce qu'il aimait. Il aimait la gloire de son Père. Il aimait les gens qui venaient là, qui voulaient prier, qui ne pouvaient pas parce qu'il y avait le brouhaha, il y avait ce trafic, et ils ont converti la maison de prière dans une maison de voleurs. Et par amour pour la sainteté de Dieu, déborde la colère. En Marc, il y a un autre moment, il dit que Jésus s'était indigné. Il s'était indigné par l'attitude des pharisiens qui ne voulaient pas qu'il aide quelqu'un, qu'il guérisse quelqu'un qui avait besoin de ça. Eux, ils étaient prêts à l'accuser, à sauter sur lui si jamais il faisait une guérison. Et ils voyaient au fond de leur cœur et il s'est indigné. Mais il y a un autre endroit, j'aimerais vous montrer. Il ressort peut-être moins bien dans notre traduction, mais c'est en Jean chapitre 11. La semaine dernière, on a fêté la Pâque, la résurrection. Et ici, en Jean 11, c'est l'histoire de la résurrection de Lazare. C'est là où il va dire « Je suis la résurrection et la vie ». Et puis, il ressuscite Lazare. Mais on lit plusieurs versets très intéressants, si on creuse les mots un peu. Il arrive à la famille de Lazare, Marie et Marthe. Et donc en Jean chapitre 11, verset 32, au moment qu'il va rencontrer les deux sœurs séparément, d'abord Marc puis Marie. Et en verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comment il aimait. » Quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Et en fait, cette expression « frémir »,« frémir en lui-même » ou « frémir dans son esprit », c'est un mot très curieux. Toutes les autres fois dans les évangiles ou ailleurs, c'est traduit « s'irriter ou menacer sévèrement. Le dictionnaire biblique dit donner un sérieux avertissement, menacer pour enjoindre s'irriter. Alors effectivement, les traducteurs sont un peu embêtés parce que on voit Jésus en train de pleurer, on voit la mort, mais littéralement, il frémit on pourrait dire, de colère, de rage. Alors pourquoi cette vive émotion à ce moment même? Je ne pense pas que c'était contre les gens, contre Marie ou Marthe. On voit qu'il est en train de pleurer même. Je dirais qu'il pleure avec ceux qui pleurent parce qu'il voit, ce que la mort, la souffrance que la mort peut entraîner. Mais mélangé à cette tristesse de ce que la mort peut faire, on pourrait dire que Jésus il est face à l'ennemi public numéro un, c'est-à-dire la mort. Il est face à ce que la Bible appelle le « dernier ennemi », la mort, et puis ce qui a causé la mort, le péché, et puis tous les dégâts que ça fait, tous les ravages qu'a fait la mort contre la création de Dieu, la beauté de Dieu, contre la vie que Dieu a créée. L'ennemi, c'est la mort. Et Jésus se trouve face à cette mort, et en voyant un peu la foule et la famille, tous les dégâts, par amour pour eux, Il s'irrite, il frémit. Donc vous voyez, à plusieurs reprises dans les évangiles, on trouve Jésus indigné ou irrité, en colère. Pourquoi? A-t-il montré la colère à ces moments? Est-ce qu'il avait eu moment de faiblesse? Non, s'il a montré la colère, c'est justement parce qu'il était parfait. C'était l'homme parfait. Il était parfait, et parce qu'il était parfait, cette colère était là. Parce que dans certaines situations, la colère, l'indignation est le sentiment juste qu'il convient d'avoir. Le péché serait de l'indifférence, de ne rien agir, de dire « Ah, tant pis ». Mais non, quand il y a une véritable injustice, un véritable dégât ou destruction des choses précieuses, c'est normal qu'il y ait de l'indignation. À un autre moment, l'apôtre Paul, il va féliciter l'église à Corinthe pour leur indignation. Il dit en 2 Corinthiens chapitre 7, verset 11, il y avait une situation, il y avait le péché dans l'église, peut-être ils toléraient trop le péché. Paul a dû les rappeler alors, et donc ils ont manifesté un changement d'attitude, et là ils ont un peu traité le péché avec sérieux, avec indignation, et Paul dit, ben c'est bien, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Donc, quelque part, il félicite, après il va les essayer, les conduire vers le pardon aussi, mais là, il les félicite d'avoir montré une indignation contre le péché qui peut ravager, qui peut faire du mal au sein d'une assemblée. Vous voyez, là, si on creuse la colère un peu, il peut y avoir une justesse de base dans ce sentiment de colère. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu, Dieu qui est capable des sentiments, la joie, l'amour, la compassion et la colère. Donc, à la base, on pourrait dire que la colère peut être bonne. Mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Et c'est là toute la difficulté. Et on pourrait parler maintenant du dérapage de la colère. Parce que Paul, en parlant ainsi, il sait très bien que la colère peut déraper rapidement, facilement. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Et verset 31, il va carrément dire que toute colère disparaisse du milieu de vous. Et là, effectivement, le témoignage de la Bible, on parle de la colère de Dieu et on parle de la colère des hommes. Et la colère des hommes, quand la Bible en parle, c'est qu'elle est dérapée. Proverbe 14, beaucoup de proverbes qui parlent de la colère et qui disent que la sagesse, c'est justement savoir gérer la colère. Proverbe 14, 21, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Celui qui est lent à la colère. Encore une fois, on va jamais dire que la colère doit être absente, mais on va toujours dire que la colère doit être lente. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui prend à s'emporter proclame sa folie. Ici, et donc dans cette liste, en verset 31, Paul va un peu décliner toutes les formes de colère, les mauvaises formes de colère, la colère dérapée. En verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, ça c'est la mauvaise sorte, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Hein, bien sûr, la colère peut avoir différentes formes. Il y a ceux qui s'emportent, qui explosent et qui cassent tout. Il y a ceux qui boudent intérieurement avec une amertume qui peut être tout aussi forte. Qui laisse pousser des racines, comme dit la Bible, des racines d'amertume, et ces racines deviennent des poussées, et puis des poussées deviennent des arbres, et ça peut être terrible. Alors Paul va dire que tout ça disparaisse du milieu de vous, effectivement. Et là, dans cette liste, on a tout ce qu'il faut, pas pour réussir l'unité. Et donc Paul invite à s'en débarrasser, parce que la colère... Oui, elle a vite dérapé. Pourquoi un tel problème? Pourquoi avons-nous un tel problème avec la colère? Nous avons dit que la colère est une preuve d'amour, au fond. Mais, vous savez, elle se pervertit dès que l'objet de notre amour n'est pas centré sur Dieu, sur sa vérité, sur sa volonté. Et c'est là tout le problème de la colère. Celui qui se met en colère parce que le repas n'est pas prêt, ou parce que la maison n'est pas rangée,
ou parce que la queue est trop longue, ou parce que quelqu'un lui a doublé dans la queue, ou sur la route.
Quand on se met en colère pour ces choses,
finalement, quel est l'objet de notre amour dans ces cas-là? Quelle chose est menacée? Quelle chose est en péril? Quelle chose voulons-nous défendre? Eh bien, c'est notre propre confort, c'est nos propres intérêts, c'est notre temps, notre argent. Et c'est ça le problème, c'est que la colère vient d'un amour tordu, un amour égoïste.
Vous connaissez ça en Corinthiens 13, on parle d'hymne à l'amour, où Paul décrit l'amour, le vrai amour.
Mais on pourrait invertir la chose, on peut lire la chose à l'envers, c'est découvrir un peu la source de colère.
C'est que quand l'amour égoïste, l'amour propre, eh bien, est impatient, et il est plein d'envie, il se vante quand il s'enfle d'orgueil, quand il cherche son intérêt, eh bien oui, il s'irrite. Et quand il soupçonne le mal, quand il se réjouit de l'injustice, effectivement, il n'arrive pas à supporter, à excuser.
Vous voyez, dès que l'amour, c'est un amour égoïste, un amour propre, eh bien, c'est tout ce qu'il faut, c'est la recette par excellence pour que la colère déborde. Alors, vous regardez un peu la vie de Jésus-Christ, lui qui était vide de cet amour égoïste, c'est toujours un amour pour les autres. Et donc, finalement, c'est ça qui est étonnant. Jésus s'est jamais fâché, s'est jamais mis en colère pour quelque chose qu'on lui a fait personnellement. Tout ce qui était, tout le mal dirigé vers lui, ça, il ne s'est pas mis en colère. Les fois où il s'est mis en colère, c'était le mal était dirigé ailleurs. Il s'est mis en colère, c'était non pas pour lui, c'était pour le bien des autres, c'était pour leur vie, c'est parce que toute la vérité et la beauté de Dieu étaient menacées.
Notamment même quand l'éternité, la précieuse éternité des autres était menacée, c'est là où il s'irritait.
Et voilà, c'est quand on commence à comprendre la colère ainsi, là on voit qu'effectivement le problème est là, la colère dérape. Quand à la base, l'objet de notre amour n'est pas ce qu'il devrait être.
J'aime bien cette fois, il y a un autre personnage dans la Bible qui s'est irrité, qui s'est fâché, c'était Jonas. Jonas, un peu à la fin, il était prophète de Dieu, il a été envoyé en mission, sa mission avait connu une grande réussite, mais il se fâche, il s'irrite, dit le texte biblique en Jonas chapitre 4.
Et Dieu vient le voir et Dieu lui pose cette question qui pourrait poser à chacun de nous dans nos moments d'irritation. Fais-tu bien de t'irriter? Fais-tu bien de te fâcher? Et si on se posait un peu et on réfléchit à cette question, parfois on aurait du mal à répondre.
Jonas, il dit oui, je fais bien de m'irriter.
Mais pourquoi? Pourquoi Jonas s'était-il fâché?
Il s'était fâché parce que Dieu n'avait pas détruit les Ninivites. Il était censé prêcher ce message de repentance à la grande ville de Ninive.
Et finalement, les Ninivites se sont repentis, ils ont écouté le message, et Dieu les a pardonnés, Dieu ne les a pas détruits. Et Jonas était fort déçu, et même il s'est fâché. Alors là, on creuse un peu sa colère à lui, et on trouve encore un amour. Quel est son amour? Eh bien, son amour, c'est pour peut-être sa propre sécurité, sa sécurité nationale, parce que les Ninivites, c'était le grand ennemi d'Israël. Alors, surtout, qu'ils voulaient que Dieu les écrase pour que Israël soit bien. Mais quand Dieu les a pardonnés, alors là, ils se sentaient menacés, en quelque sorte, par Ninive, par cette grande ville. Alors là, il était irrité. Vous voyez, quand Dieu commence à nous poser la question, fais-tu bien de t'irriter? Il faudrait regarder dans notre cœur pour voir, ah oui, où est-ce qu'on a posé notre amour? Qu'est-ce qui est précieux à nos yeux? Qu'est-ce qui est si précieux qui est menacé pour que ça me fâche? Donc, une manière que la colère dérape, la manière principale, c'est que la source n'est pas bonne, la source d'amour n'est pas bonne. Il me semble qu'il y a une autre manière on a du mal avec la colère, avec ce sentiment qui est si dangereux, on va dire, un si grand potentiel au péché et au danger. C'est que on n'arrive pas à le faire un peu comme Dieu. Vous voyez, on a parlé de ce canon, ce fameux canon de Victor Hugo qui se promène sur tout le bateau, qui écrase tout, qui est une menace pour y être incontrôlable, qui se promène librement comme ça. Eh bien, la colère de Dieu, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ce canon déchaîné. C'est une bonne image de la colère, je trouve, qui détruise tout sur son chemin. Voilà, quelqu'un a connu une mauvaise expérience sur la route ou au travail, puis il va rentrer, mais pareil, il est toujours ce colère déchaînée. Alors après, c'est toute la famille qui prend des coups de sa colère. Ça arrive. La colère de Dieu n'est pas comme ça. Elle n'est pas en promenade libre comme ça. Elle n'est pas aveugle. La bonne colère, j'ai entendu cette illustration, la bonne colère, c'est plus comme un laser, ouais, un peu comme on fait la radiothérapie ces jours-ci. On vise le mal, mais tout l'intérêt de la radiothérapie, du laser, c'est qu'on arrive à viser le mal sans détruire tout le reste au passage. Et c'est ce que la bonne colère est ainsi. Elle vise le mal. Elle s'irrite contre le péché, contre les dégâts qu'on fait à la vérité de Dieu ou à la création de Dieu. Elle vise le mal là, mais elle ne cherche pas à tout casser, à tout détruire de la personne. Vous savez, ces jours-ci maintenant, avec les armes de guerre, les missiles, ils sont guidés par laser, et l'idée c'est de faire, voilà, de viser mieux sans faire autant de dégâts qu'on n'aimerait pas faire, mais bien viser. Autrefois, c'était juste, on mettait des bombes en pagaille, un tapis de bombes, et comme ça on espérait peut-être écraser, mais voilà, ça détruisait tout. Et la colère, elle agit comme ça. La colère de l'homme est comme ça, mais la colère de Dieu, elle vise vraiment le mal. Et ce qu'on a trouvé dans la personne de Jésus-Christ, je vous ai cité cette fois où il était devant les pharisiens qui étaient vraiment pas contents qu'il allait guérir un homme le sabbat. Alors le verset dit qu'il promenait ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur. Ça c'est Marc 3, verset 5. Il était indigné, mais en même temps affligé, et puis en même temps il va guérir, montrer la compassion à cet homme. Et lui, il arrive à faire si bien ce que nous n'arrivons pas à faire, avoir et la colère, et la tristesse, et l'amour pour son entourage autour de lui. Le problème avec notre colère, c'est souvent elle domine tout. C'est vrai, la colère peut être un sentiment dominant qui nous fait oublier tout le reste. Et il nous est difficile d'avoir en même temps des sentiments de compassion envers l'autre, des sentiments de tristesse, par exemple, si effectivement la personne est en tort, au lieu simplement de se fâcher, de voir aussi montrer de l'amour, la compassion, la pitié. La bonne colère arrive à s'irriter contre la bêtise, contre le péché, et non pas contre toute la personne qui fait le mal. Et ça, je trouve, c'est un principe important dans la famille, au sein du foyer. C'est vrai, la colère d'un parent peut être une bonne chose lorsqu'il y a vraiment péché, ou aider les enfants. Il faut la discipline, tout ça, la colère d'un parent. Mais la colère d'un parent devrait viser à détruire la folie de l'enfant, pas détruire l'enfant. Et trop souvent, on n'arrive pas à faire ça. On détruit l'enfant avec. Donc c'est pour ça, pour être sûr que la colère ne dérape pas, ne dépasse pas les proportions saines, Paul donne ce simple principe, je trouve intéressant, que votre colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il faudrait qu'à la fin de la journée, voilà, ça part. Alors effectivement, ça, c'est ce qu'il nous demande, c'est pas si évident que ça, parce que s'il y a une chose qui peut parfois tracasser, tourmenter, nous faire perdre du sommeil, c'est quelque chose qu'on a vécu, soit la colère qui s'est emportée en nous, ou bien nous avons été victimes de la colère d'un autre, et c'est difficile à mettre fin à ça à la fin de la journée et dormir paisiblement. Mais si on garde ce principe en tête, peut-être on réussira à faire, comme dit le verset, mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Alors, d'où vient cette force qui qu'il nous faudra pour contrôler ce sentiment qui est souvent déchaîné, dérapé, pour contrôler la colère, aussi pour répondre à ceux qui sont en colère, parce que un peu la méthode dans notre société, parfois la méthode française, lui se met en colère, moi je me mets en colère avec lui, et puis on arrive à escalader la chose tellement, tellement grand que tout le monde s'en porte très mal. Donc comment désamorcer la colère? Comment répondre avec amour pour ceux qui sont en colère? Comment moi-même je peux apprendre à dompter ce sentiment? Et c'est là qu'il nous faut parler du domptage de la colère. Il va nous aider dans ce texte. On a déjà creusé un peu pourquoi réagissons-nous avec la colère, avec l'amertume. C'est parce qu'il y a cet amour pour quelque chose au fond de nous, un amour parfois propre. La colère, c'est un peu notre mécanisme pour se justifier, pour se défendre, pour toujours mettre le blâme chez l'autre, pour se protéger. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul, il cite dans le verset chapitre 4, quand il dit « Si vous mettez en colère, ne péchez point », il a en tête un verset dans les psaumes, il cite un psaume, c'est le psaume 4. Et justement, c'était écrit par David, à un moment où lui était en détresse, il était attaqué certainement, même peut-être outragé par ses ennemis. Et on peut comprendre que lui, il a peut-être du mal à gérer ses sentiments lui aussi. Je suis dans la détresse, je crie, on vient m'attaquer, tout ça. Mais le psaume termine, c'est là où on voit que Paul il connaît bien le psaume, il connaît bien le contexte. Et David termine le psaume 4 en disant « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Je me couche et je m'endors en paix. Malgré les adversaires autour de moi, malgré la détresse, malgré l'outrage, je peux me coucher et je peux m'endormir en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Voyez, si notre sécurité, c'est notre réputation, et qu'elle subit un tort, là, on va s'irriter, on va se fâcher. Si notre sécurité, eh bien, c'est réussir à gérer notre temps, notre maison, et qu'il y a quelque chose qui menace cette sécurité-là, effectivement, on peut s'emporter, on peut se fâcher ou bien on peut devenir amer. Mais si notre sécurité est en Dieu et ce qu'il pense de nous, ces autres choses peuvent nous arriver sans tout chambouler dans notre vie. Et c'est là qu'il faut prendre en compte si jamais on va gérer la colère. Parce que nous aussi, finalement, c'est ce que va dire ce passage, nous aussi, nous étions des fils de rébellion comme les autres. Nous étions, nous, en colère contre Dieu. Comment a-t-il réagi avec nous? Nous étions fâchés avec lui. La preuve, c'est que nous ne le voulions pas dans notre vie. Nous ne le voulions pas écouter. Et la Bible dit que même nous méritions sa colère. Mais ce passage nous rappelle que Jésus, il s'est livré en offrande. C'est-à-dire, Jésus, il a pris sur lui la colère de Dieu pour devenir notre sécurité, pour devenir notre salut. Et lorsque nous méditons cela, ça change vraiment notre attitude par rapport à la colère. Vous voyez comment Dieu a fait? Dieu n'a pas déclenché un canon terrible de colère à tous azimuts, au hasard, comme ça. Non, Dieu, il a dirigé sa colère parfaitement vers un endroit. Il a visé de manière précise, de sorte à ce qu'il réussisse à détruire le péché sans détruire le pécheur. Un peu comme la radiothérapie cherche à faire, Jésus l'a fait par excellence, Dieu l'a fait par excellence, parce qu'il a trouvé une manière, pas de détruire tout le monde avec sa colère, mais il l'a dirigé vers son Fils, qui portait à ce moment nos péchés, notre rébellion. Dieu n'a pas riposté avec colère contre nous. Il nous a pardonné. C'est la beauté de l'évangile. Et ce passage dit que le chrétien, il a désormais la possibilité de devenir un imitateur de Dieu,
dans ce domaine, qui est lent à la colère, qui est compatissant, qui est prêt à pardonner. Il nous a aimés, nous qui ne méritions pas son amour, nous qui méritions sa colère. Il nous a aimés. C'est ce que dit les versets 32. Et puis dans le chapitre 5, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » C'est-à-dire, nous pouvons agir comme lui dans la mesure où nous comprenons ce qu'il a fait pour nous. Il y a un proverbe, c'est Proverbe 19, verset 11, qui dit « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. » L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Vous voyez, on reçoit quelqu'un nous offense. Alors la méthode typique, c'est d'offenser en retour ou se mettre en colère en retour. Mais ce proverbe dit que la sagesse, c'est d'être lent et de les oublier ses offenses. Mais ça c'est difficile. Pour oublier une offense, pour ne pas riposter, quelque part il faut l'encaisser. Quelque part il y a un sacrifice à faire si on ne va pas riposter avec en colère, quand on subit quelque chose. D'où va venir cette force d'agir comme ça? D'où va venir la volonté de faire ce sacrifice, d'encaisser en quelque sorte le tort pour ne pas le rendre? Eh bien, nous avons dans l'Évangile, nous avons dans le message de Jésus-Christ, effectivement, un moyen, une puissance nouvelle, lorsqu'il nous change, lorsqu'il habite en nous, cela commence à devenir possible de répandre comme lui l'a fait face à des injustices. Je retourne au tombeau de Lazare pour terminer. Quand Jésus était devant ce tombeau, il montre cette indignation, cette colère, ce rage contre la mort, contre cet ennemi, contre tout le mal, et qu'il voit que la mort peut produire. Et on se trouve un peu comme bizarre ces sentiments. Et plusieurs fois, on dit qu'il était tout ému, on dit qu'il frémit dans son esprit à plusieurs reprises, on dit qu'il pleure. Ça, c'est curieux parce qu'en quelques secondes, il va ressusciter Lazare. Et sur une petite parole, il va dire « Lazare, sort ». Et on se dit, mais pourquoi toute cette émotion alors qu'en 5 minutes, tout est fini, sur une parole facile, il met fin à cette histoire? Et nous, on voit ça, on dit « Ah, c'était facile pour Jésus de faire comme ça ». Eh bien non, toutes ces émotions montrent que c'était pas facile pour lui. C'était facile de prononcer sur place ce mot « Lazare, sort ». C'était facile de dire, sortir les mots « Je suis la résurrection de la vie », mais derrière, c'était pas facile pour Jésus-Christ. Il a fallu que cette mort-là, cet ennemi, pour qu'il puisse dire « Je suis la résurrection de la vie, je vous l'offre », il fallait qu'il lui, il encaisse. Il fallait qu'il lui paye ce prix infini d'aller vers la mort et de le goûter lui-même, de l'encaisser lui-même pour l'arrêter. C'est lui qui s'est mis là devant l'ennemi et qui a encaissé ce tort, ce mal, cette offense, cette chose qui détruit nos vies, qui détruit la création de Dieu, le péché et la mort. Eh bien, il les a encaissés sur lui-même pour qu'il puisse répondre calmement devant Lazare ou devant d'autres. Voilà, sort. Parce que si Lazare est sorti, c'est que Jésus était entré quelque part dans le tombeau pour en sortir vivant. Et ça, quand on mesure ce qu'il a fait pour nous, la réponse qu'il a eue, alors là, ça commence à nous changer. Et on peut répondre, quand nous, on voit le mal, le tort, les offenses, les injustices, il peut y avoir cette bonne colère, mais il peut y avoir aussi cette douceur, où on répond avec compassion, avec amour, avec bonté envers les autres. Et là, on arrête le cycle vicieux. C'est pas riposte, c'est pas colère pour colère, c'est amour en réponse à leur colère. Et ça, c'est le miracle que fait l'Évangile dans notre vie sentimentale, que Dieu nous aide à vivre ces choses en fixant nos regards sur Jésus-Christ. Prions pour terminer. Seigneur, tu veux être le maître de notre vie sentimentale aussi, ces sentiments
qui sont dans le cœur, dans l'âme. Parfois, on a l'impression qu'ils sortent automatiquement, mais c'est le débordement du cœur et l'état du cœur. Et nous te prions de transformer ce cœur, de le remplir avec un amour, d'enlever nos mauvais amours, nos amours égoïstes, source de beaucoup de problèmes, de colère, et de le remplacer avec un amour pour toi, un amour pour Jésus-Christ, un amour pour son œuvre à la croix. Et petit à petit, nous savons que tu peux nous transformer à son image pour qu'effectivement nous agissions comme lui en toutes circonstances. Je te prie pour cette assemblée, je te prie pour chacun, certains ici, victimes de la colère, peut-être au travail, peut-être à la maison, d'autres ici, un tempérament qui s'emporte facilement, qui a beaucoup d'amertume dans le cœur. Nous te prions de pardonner, de transformer ces choses, de les enlever, comme toi seul tu peux faire. Fais cette œuvre dans notre vie et nous en serons reconnaissants. Au nom de Jésus-Christ. Amen.